On peut se sentir parfois triste, parfois pris dans la tourmente de ses émotions et de ses ressentis et de la vie, et apporter des paroles qui font du bien. Merci Christiane. J'aimerais partager avec vous une parole, mais avant de partager cette parole, on a eu notre assemblée générale la semaine dernière et on a oublié de lire, ça doit être la faute du président, une lettre d'une autorité de l'Église qui nous était transmise. Et je suis venu dans la semaine, en fait, et j'ai trouvé cette lettre-là dans notre boîte à lettres. Et donc j'avais à cœur de lire cette lettre-là qui nous a été transmise et qui porte le nom de l'Église apostolique de Kevin. Il y a parfois des bons messages dans les boîtes à lettres. Et puis, c'est une lettre aussi... j'ai vu la liste de tous les membres de l'Église locale. Donc, je pense que ça nous concerne et ça vous concerne. Et donc, j'avais à cœur de lire ce message de l'autorité qui préside aux destinées de notre Église et donc qui nous a adressé cette lettre-là et qu'on aurait dû lire peut-être avant. Donc, écrit au pasteur de l'Église apostolique de Kevin... Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, Église de Kevin. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église de Kevin. Amen. Nous avons eu notre assemblée générale, nous avons parlé de l'Église de Kevin et nous avons... quelque part, était attentif à l'organisation et aux autorités et aux lois qui régissent les églises en France. Mais j'aime que la parole de Dieu nous rappelle qui est aux commandes de l'Église et ce qu'il nous dit aujourd'hui à nous. Il y a quelques semaines, nous avons eu au moment de la réunion de prière quelqu'un qui a apporté quelques pensées sur l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse. Et quelque part, ça a avivé en moi un rappel de ce que cette lettre à l'Église pouvait être comme une lettre à la fois d'encouragement, de mission. Une lettre qui nous trace la route, qui nous montre la direction. Il y a sept lettres aux Églises. Certains disent, ce sont les travaux des exégètes, que ce sont... des lettres qui sont envoyées directement à des églises qui existaient. Il y a celle d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Et puis certains disent que ce sont des lettres qui s'adressent à l'église tout au long de son histoire. Et certains essayent d'appliquer les messages à des périodes que l'église a traversées, bonnes ou mauvaises, de persécution ou d'épanouissement. Et puis, certainement pour nous aujourd'hui, ce qu'on peut en retirer, c'est un message concernant l'Église là où elle se trouve dans son rapport à Dieu, dans sa relation à Dieu, dans sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Car il s'agit bien de cela. Qui préside aux destinées de l'Église ? Qui préside aux destinées de l'Église apostolique de Kévin ? Michel Cannon, son président éminent. Jean-Marc Wangto, son pasteur. L'équipe pastorale. Vous, parce que nous sommes dans une église où chacun peut élever la voix. Qui préside aux destinées de l'Église ? Écrit au responsable de l'Église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Celui qui préside aux destinées de l'Église apostolique de Kévin, des églises de la région lorientaise, de l'Église dans ce monde, c'est et cela doit être le Christ. Toute histoire d'Église qui se bâtit en dehors de Christ, localement, régionalement, nationalement et au-delà, et qui ne serait pas sur ce fondement essentiel, est vouée à l'échec. L'Église de Philadelphie, son message est un des messages peut-être les plus positifs. J'ai été gentil ce matin, j'aurais pu prendre des messages destinés à des églises et qui sont des messages durs, de reprise, voire de condamnation. Mais j'aime ce message de Philadelphie. Parce que Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Et la ville tire son nom, en fait, de deux rois, de l'histoire de deux rois. L'un s'appelait Attalus et l'autre était son frère qui vivait à quelques kilomètres de là, 150 kilomètres à peu près. L'un était, je crois, le roi de Lydie et l'autre était le roi d'une autre région. Et il se trouve que ces deux rois étaient en dispute. Ils étaient deux frères, ils se disputaient jusqu'à ce que Attalus décide de créer une ville entre leurs deux royaumes, une ville à mi-chemin. Et il a créé Philadelphie, amour fraternel, pour montrer son désir de réconciliation, pour rétablir la relation et le lien. Il a été surnommé Attalus Philadelphe, celui qui a de l'amour fraternel. À cause de sa loyauté à l'endroit de son frère qui s'appelait Eumène, je bâtis une ville pour que nous nous y retrouvions. Et je trouve que cette image de Philadelphie est une belle image de l'œuvre de Christ. C'est une belle image de l'action du Père. Nous étions séparés par la colère. Je vous envoie celui qui, entre moi et vous, sera votre lieu de refuge. Dans le Lévitique, il y a ce principe. Ceux qui étaient coupables, ceux qui méritaient la mort, avaient la possibilité de se réfugier dans plusieurs villes de refuge pour ne pas être tués et condamnés. Les villes de refuge. Quand quelqu'un était coupable de mort, selon la loi, eh bien, il avait la possibilité de tracer la route le plus vite possible et d'aller dans une des sept, je crois, villes de refuge qui étaient disséminées tout le long du territoire d'Israël. Et ils allaient se réfugier. Et une fois qu'ils étaient dans la ville, il n'y avait plus possibilité de les atteindre, sauf s'ils en sortaient. C'est une belle image de Christ. Nous méritions la mort. Nous étions coupables. Et là aussi, l'ange de la mort pouvait nous atteindre. Mais Dieu a envoyé son Fils afin que, en lui, nous ayons la réconciliation. En lui, nous trouvions le pardon de nos fautes. En lui, et si nous restons en lui, nous avons la garantie d'être gardés, d'être protégés. Sommes-nous en lui ? Philadelphie, c'est cette ville. Elle ne faisait pas partie des villes de refuge, elle est en dehors d'Israël. Mais c'est cette ville qu'un frère a posée en disant « Je veux que notre relation trouve en ce lieu la réconciliation. Que l'amour soit à nouveau dans cet espace-là. Que rien ne nous sépare. Et Christ est notre Philadelphie, envoyée par le Père. Nous disons, voilà, c'est mon amour qui fait que tu peux te réfugier là. » Cette ville a connu bien des aléas. C'est une ville qui a changé de nom à multiples reprises. Aujourd'hui, elle porte le nom de Al-Ashe'er, mais elle a changé successivement de nom. Et ce n'est pas pour rien, me semble-t-il, que dans le texte qui nous est donné, il est parlé de nom à la fin de ce message destiné à l'église de Philadelphie. Nous aussi, on a changé de nom. On était église apostolique, membre de la Fédération protestante de France. Et puis l'Église apostolique, par ses autorités, a choisi de sortir de la Fédération protestante de France. Je ne ferai pas de commentaires. Et puis on a dû demander à Pascal de barrer membre de la Commission ou de la Fédération protestante de France. On a changé un peu notre identité. Mais la question n'est pas sur notre identité sur cette terre. C'est notre identité à nous, aujourd'hui, ici, par rapport au Seigneur. Hein ? Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il paraît qu'on est les champions du monde. Vous le saviez ? On est les champions du monde. Il y a une enquête, il y a une dizaine d'années, qui disait les Français, ce sont eux qui sont champions du monde dans cette discipline. Vous savez laquelle ? Les Français sont les champions du monde quant au poids qu'ils portent sur eux. Vous le saviez ? Mais le poids de quoi ? Ah ! Le poids de quoi ? De carte bleue ? Non. De chéquier ? Non. Le poids de quoi ? On est les champions du monde. De ? Des préservatifs ? Excuse-moi, de loin, j'ai... Ah, d'esprit négatif ! Je me disais... J'étais limite d'être choqué. On fera un coupage dans cette prédication hein, pour la diffuser après. Non, c'est pas cela. De quoi sommes-nous les champions du monde ? Dépression ? Non. Concrètement, un poids qu'on porte et que vous portez à l'heure actuelle sur vous ? Alors, ce n'est pas les bagues, ce n'est pas les colliers, non ? Les ? Quelque chose de concret qu'on peut toucher. Vous voulez que je vous montre ? De ça. En plus, moi, celle-ci, je l'ai toujours parce que j'ai... C'est ma clé professionnelle et j'ai des clés USB. Mais les champions du monde du poids de clés au monde, c'est les Français. C'était en tout cas il y a quelques années. Et vous savez ce que cela dit ? Ça dit que dans le registre des choses les plus importantes, ce qui prend le plus de place, c'est notre crainte, notre peur et l'insécurité. Il nous faut des clés pour tout. Et les Français sont les champions du monde du poids de clé qu'ils portent sur eux. Alors moi, j'ai que celle-là, en général. J'en ai pas d'autres, parce que c'est la clé de mon travail, et que c'est mon passe, et que ça ouvre toutes les portes de l'établissement. Il n'y a que 3 personnes dans mon établissement qui ont cette clé-là. J'ai que cette clé-là. Je ne suis pas un adepte des portes-clés, mais j'ai une collègue de travail que je ne citerai pas. Quand elle sort ses clés... Ça représente ça, à peu près. J'ai renoncé à lui demander pourquoi elle avait autant de clés et à quoi ça pouvait servir. Mais en tout cas, je me suis dit, peut-être que je vais lui offrir un caddie ou une brouette pour porter ses clés. Vous voyez, hein. Ou en tout cas, un porte-clés à roulette. Les clés que nous avons sont des clés qui disent quelque chose de ce que nous sommes et de ce qui est important pour nous. Mais ça dit aussi quelque chose, et là je rejoins ce qui a été évoqué, ça évoque, ça parle aussi de nos craintes et de nos peurs, de notre besoin de sécurité. Ici, dans la lettre qui est adressée à l'église de Philadelphie, le texte commence par dire « Voici ce que dit le Saint, le véritable », c'est-à-dire celui qui est véritablement au centre de nos vies et qui détient toute la vérité. Et pour le qualifier, l'apôtre Jean dit « C'est celui qui a la clé de David ». On retrouve que deux fois cette notion de clé de David. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'autre passage où on entend parler de la clé de David, c'est quand Ésaïe parle de quelqu'un qui s'appelle Éliakim, fils de Hilkia, qui a été installé auprès du roi, et il est dit au roi, « Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je remettrai ton pouvoir entre ses mains, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Ésaïe 22, 20. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il aura ouvert, personne ne pourra fermer. Quand il aura fermé, personne ne pourra ouvrir. » Vous retrouvez la citation du livre de l'Apocalypse. « Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr, et il sera un trône glorieux pour sa famille. Tout ce qui fait la gloire de sa famille y sera suspendu. Branches principales et rameaux secondaires, toute la petite vaisselle depuis les bassines jusqu'aux jarres. En ce jour-là, le piquet enfoncé dans un lieu sûr sera retiré, il sera abattu et cédera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. » C'est le Seigneur qui parle. Deux passages où il est parlé de cette clé de David. On peut se dire, quand on écoute ce qui est proposé au roi d'Israël, en mettant à ses côtés un homme qui est toute autorité, la même autorité que celle du roi, hein. Il dit, je mettrai sur lui ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il y a comme une vision prophétique de ce qui a été fait et accordé à Christ. Il était revêtu d'une tunique unique. Il avait toute l'autorité du Père. Il pouvait à son gré guérir les malades, ressusciter les morts. Il avait toute autorité. Et cet Éliakim, il est dit que Dieu mettrait sur son épaule la clé de la maison de David. Quelle clé pour devoir la porter sur l'épaule. On sait que certaines portes de Jérusalem étaient des clés comme il en était couramment utilisé pour les portes des villes de cette époque. C'était des clés, c'était des grands systèmes qu'on mettait dans des énormes serrures qui faisaient verrou. Et ces clés-là, il fallait une à deux personnes pour pouvoir les porter. La clé de David. Et quand il est parlé d'Éliakim, avec cette vision quasiment messianique, on peut se dire, mais quelle est cette clé que Dieu a confiée? Je vais vous le dire, il est une clé que Christ a portée sur ses épaules, comme Éliakim, pour ouvrir les portes de Jérusalem. Il est une clé que Christ a portée pour aller jusqu'au mont Golgotha. Il est une clé qui, semblable à ce qui a été dit au roi au sujet d'Éliakim, une clé qui a été enfoncée comme un piquet dans un lieu sûr et qui est devenue le marchepied du trône où Christ est assis. Et cette clé, c'est la croix. Je l'enfoncerai, cette clé, comme un piquet dans un lieu sûr. Tout y sera suspendu. Et en ce jour-là, le piquet enfoncé dans un lieu sûr sera retiré. Il sera abattu et cédera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Quel fardeau a été accroché à la croix, afin que cette croix porte ce qui est appelé à disparaître, à être ôté mon péché, mes fautes, tout ce qui me sépare du Père. Le piquet enfoncé sera retiré, disparaîtra. Tout a disparu de ce qui était à Golgotha. Je laisse à ceux qui veulent y croire le fait qu'il est l'incendie de Notre-Dame a épargné une épine de la croix ou d'autres objets de ce temps-là. Mais ce que dit le livre d'Ésaïe, c'est que tout a disparu. Tout a disparu de ce qui était, de ce piquet planté à Golgotha. Ce qui reste, c'est l'efficacité de l'œuvre de la croix pour nous aujourd'hui. Écoute, Philadelphie, écoute, Kevin, ce que ton Dieu a fait pour toi. Ce que ton Dieu a fait pour toi. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, il nous parle de l'œuvre de Christ pour nous aujourd'hui, de son efficacité permanente. Es-tu, malgré ta foi en Christ, envahi par le doute, par la peur, par la tristesse? Es-tu, face au choix que tu as à faire, tremblant dans l'indécision? Eh bien, sache que Dieu peut te conduire, que Christ est là pour te conduire dans des chemins où des portes peuvent s'ouvrir. Et aucune puissance, dès lors que c'est Christ qui ouvre une porte dans ta vie, ne pourra la fermer. Es-tu en train de choisir une direction dans ton existence? Cherche le chemin de Dieu. Cherche le chemin de Dieu. Parce que si la volonté de Dieu, c'est ce que tu recherches, alors la porte s'ouvrira dans ton obéissance, dans ta soumission à Christ. Et alors, ces portes-là, d'autres pourront te dire, c'est impossible, ça n'arrivera pas, tu ne pourras pas. Tu le vivras. Parce que cette porte est une porte qui est ouverte par Dieu. Est-ce que nous pouvons croire que la clé de David, cette croix plantée à Golgotha, est cette clé qui, dans ma vie, peut rendre toute chose possible? Lorsque Dieu s'adresse à l'église de Philadelphie, et je crois qu'il s'adresse aussi à l'église de Kevin, dans sa lettre, il utilise toujours le même plan. D'abord, il dit à l'église, qui est celui qui parle? Là, pour Philadelphie, il dit, ben voilà, je suis le saint, le véritable. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le véritable. Tu cherches la vérité dans ta vie? Ce qui est vrai? Alors c'est moi. Et je te parle et je t'écris. Ah. Après, il dit à l'église de Philadelphie et de Kevin, voici ce qui est bon dans ce que tu es en train de vivre. Pour la plupart, sur 5 églises sur 7, il dit aussi ce qui n'est pas bon. Je vous fais grâce, j'ai choisi Philadelphie, c'est une des deux églises pour laquelle il n'y a pas de bon, de mauvais, hein, de reproche. Après, il lui dit aussi qu'est-ce qui reste à faire. Oui, parce que là, on est tous tranquillement installés, là. Hein. Mais il y a du travail. Il y a du travail à vivre dans ma vie. Il y a de la sanctification à vivre. Il y a une œuvre à laisser s'accomplir dans ma vie par le Saint-Esprit. Il y a des guérisons à saisir. Ou bien tout le monde est-il dans une position de gloire et attend le retour du Seigneur parce qu'il n'y a plus rien à guérir dans sa vie? Moi, j'ai encore des choses. Et je sais où le Seigneur souhaite poser son doigt, sa main. Et je sais où est-ce que je dis oui. Et où est-ce que je dis non pour l'instant? Et respecte mon rythme. Maintenant, j'ai 62 ans. Oui, ça, hein. Oui, 62 ans. J'ai eu un doute tout à coup. Il me reste combien d'années pour laisser l'œuvre de Dieu continuer à s'accomplir dans ma vie. Je ne sais pas. Mais tous les oui que j'ai dit, je m'en suis trouvé bien. Tous les oui que j'ai pu dire au Seigneur, malgré ce qu'il m'en coûte, m'ont apporté plus de bien que de difficultés. En réunion cette semaine, je travaillais du côté d'Amboise pendant 3 jours, et il y avait un thérapeute qui disait « Le changement n'est possible que lorsque l'on considère que le coût de ce que je vais abandonner est moindre que ce que je vais y gagner. À partir de ce moment-là, le changement est possible. C'est vrai pour les addictions, mais c'est vrai pour tous nos choix, y compris les choix auxquels Dieu nous invite. Voici ce que je veux pour toi. Ah, Seigneur. Oui, je pourrais changer, mais est-ce que le changement va m'apporter plus de bien-être, de mieux-être, de vie que ce que je vis en ce moment? C'est la réflexion qui se pose à chacun d'entre nous, à tous les instants de notre vie. Quand je me lève le matin, que je suis diabétique et que je vois le pot de confiture, est-ce que le mieux-être ou ce qui va être agréable est mieux que mon état de santé? Bon, c'est juste un exemple, mais dans tous les choix de ma vie, est-ce que la pensée de Dieu, à un moment donné, peut me faire dire « oui, c'est ce que je veux ». C'est la foi qui le dit. Mais c'est aussi ma connaissance de celui qui a les clés de David sur son épaule, qui me dit « je suis là parce que je veux le meilleur pour toi, maintenant. Hein » Celui qui parle, c'est le Christ. La première qualité que Dieu reconnaît à l'église de Kévin, fidèle et défi, c'est de lui dire « Je te parle parce que tu as peu de puissance. » Tu as peu de puissance. Ah. Voici parce que tu as peu de puissance. Je connais tes œuvres. C'est vrai que t'es pas une église qui est florissante ou envahissante. T'as pas 250 ou 300 membres. Tu as peu de puissance. Mais c'est une qualité de savoir qu'on a peu de puissance. Vous savez, parce qu'au niveau spirituel, c'est lorsqu'on considère qu'on a peu de puissance qu'on ne peut dépendre que de Christ, que du Seigneur. C'est toujours dangereux ceux qui sont sûrs de leur capacité, de leur qualité, qui s'avancent dans la vie en se disant « moi je crains rien, et je vais faire, et je vais y arriver ». J'ai eu ce discours-là et Dieu m'a mis le doigt dessus. J'ai eu ce discours-là à table il y a à peu près 30 ans. Un soir, dans la communauté dans laquelle je vivais avec Rémi, Michel, Catherine, Francine, moi, et il y avait Christophe qui était là. Et j'ai dit un truc qui m'a... Et après, Dieu m'a repris en me disant « Mais tu te prends pour qui ?» Et à table, j'ai dit « Mais c'est merveilleux, j'ai l'impression que dans ma vie... j'arrive à tout accomplir ce que j'ai à vivre. Tout ce que j'ai à vivre, j'ai le sentiment que j'y arrive. » C'était un repas du soir, parce qu'on prenait les repas tous les soirs ensemble en communauté. Et quand le repas s'est terminé et que je me suis retrouvé dans ma chambre, j'avais la voix du Saint-Esprit qui me disait « Mais pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que tu réussis ce que tu entreprends ?» Et j'étais sur une phase où j'étais veilleur de nuit et on avait fait le pari avec Francine de que je prenne un poste de délégué commercial dans une société de produits chimiques. Tout mon profil. C'est tout à fait moi, ça. Pour qui me connaît. Et j'étais là, je dis, mais j'ai aucune crainte. Parce que tout ce que j'ai entrepris jusqu'à présent, ça a fonctionné. Ouais. Je me suis bien cassé le nez. On est revenu en arrière, je suis redevenu veilleur de nuit, et puis on a fait tout un chemin. Et là, Dieu a conduit d'une manière, mais alors, j'aurais jamais imaginé. Le directeur qui était là m'a fait faire des formations, et puis quelques années après, j'étais directeur au sein de cette même association alors que j'étais veilleur de nuit. Mais plus jamais j'ai dit, c'est parce que je suis capable. C'est parce que je peux. Parce que j'ai les compétences, les qualités. Parce que tu as peu de puissance. Si tu as cette conscience que ce que tu es, ce que tu feras et ce que tu seras repose sur ta faiblesse, Église de Kevin Philadelphie, alors tu t'appuieras sur ton Seigneur et ton Dieu. Et il t'emmènera dans des chemins qui sont des chemins de paix, mais aussi de victoire, dans ta vie personnelle, dans ta communauté. Quand le Seigneur parle de faiblesse à propos de Philadelphie, c'est plutôt au regard des puissances du monde, là où elles se trouvent. Il sait la situation de l'Église, des chrétiens de Philadelphie. Il sait que, peut-être à cause de leur petit nombre ou à l'absence de personnes d'influence en elles, l'Église paraît comme un groupuscule insignifiant aux yeux du monde. Ouais, ok. Il le sait. Mais cette faiblesse-là, contrairement à celle due à la tiédeur ou au compromis, n'est pas un obstacle pour le Seigneur. L'Église peut être dans un lieu donné très petite et minoritaire. Elle se trouve, dit le Seigneur, dans les meilleures conditions pour qu'à travers elle, comme on en était pour l'apôtre Paul quand il se sentait le plus faible, c'est ce qu'il écrivait à l'Église de Corinthe, au chapitre 12 de la deuxième épître, Dieu manifeste sa force. Est-ce que nous voulons laisser à Dieu l'opportunité de manifester sa force dans ma vie? Même si je me sens faible, même si je me sens dépassé par les événements et les situations autour de moi, est-ce que je veux laisser Dieu prendre sa place en moi? La deuxième qualité mentionnée, c'est la fidélité à la parole de Dieu. Tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Voilà. Garder la parole de Dieu dans sa vie. Oui, mais ma parole et mes pensées sont tellement opportunes, importantes, de qualité, que ça vaut bien la peine que je m'appuie aussi là-dessus. Non, non. Tu es quelqu'un que je connais, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et quand Dieu parle de cela, il le dit certainement de deux manières. La première, ça fait référence à l'obéissance des chrétiens de Philadelphie à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a cette obéissance dans ma vie? Ce que dit la parole fait autorité. Alors bien évidemment, on peut dire, oui, mais moi je ne connais pas toute la parole de Dieu. J'ai pas... Hier, on était avec le groupe œcuménique de toute la Bretagne et on avait des niveaux de lecture, de l'écriture qui étaient très, très différents parce qu'il y a, il y a une personne qui a pris la parole. On travaillait sur un thème qui était, ça va vous enthousiasmer, je pense que vous avez regretté de ne pas être venu avec nous. C'est, dans le cadre du Brexit, quel enseignement le livre de Ruth pourrait-il nous donner quant à la situation de l'Irlande du Nord et de l'Irlande du Sud? Je suis sûr qu'avec un thème comme ça, vous regrettez de ne pas être venu avec Michel et moi-même, non? Oui? On vous inscrira l'année prochaine. Et puis, quand on a fait un travail, nous, on avait beaucoup travaillé dans le groupe œcuménique ici, dans ces locaux, pendant 2 mois ou 3 mois. On a travaillé sur le livre de Ruth en disant, et on s'est rendu compte que finalement, il y en avait qui n'avaient pas lu le livre de Ruth pour venir travailler là-dessus. Alors déjà que le livre de Ruth, c'est un livre dans lequel il faut rentrer parce qu'il y a à la fois le premier, mais le second degré de lecture, et que quand on rentre dedans, c'est un livre extraordinaire. Enfin moi, j'en ai fait vraiment un de mes livres où je travaille, que je sonde régulièrement. Mais si on ne le lit pas,
c'est difficile de parler du Brexit et de l'Irlande. Déjà que c'est pas simple. Alors, il y a une dame qui a levé la main, alors qu'on se retrouvait après un temps d'échange en petits groupes, qui a dit, oui, mais, enfin, bon, c'est dommage. Je pense que ce qui aurait été bien, quand même, c'est qu'avant, en nous envoyant les dossiers, et puis la demande et le thème, que vous nous ayez envoyé aussi un résumé du livre du Ruth. Pour qu'on le comprenne bien. Un résumé. Et là, on se dit, un résumé de Ruth, d'accord. Un résumé du Lévitique, je comprends. Il y a parfois besoin. Ou un résumé d'Ésaïe, mais de Ruth, quatre chapitres, faire un résumé de quatre chapitres. Parce que vous comprenez, finalement, moi, je ne l'ai pas lu.
Ah.
Et là, on se pose la question... Quelle est la place de la parole quant à l'obéissance de la parole? Il y a des choses qui ont besoin d'être expliquées. Et il est bon qu'il y ait des groupes de partage de l'écriture avec les rendez-vous avec la Bible, avec des enseignements que fait Michel, etc. C'est bien. Mais est-ce que je suis dans cette approche? Je te connais, je connais tes œuvres parce que tu as gardé ma parole. Ouais. Garder la parole, c'est aussi... conserver le bon dépôt et veiller à ce qui est enseigné sur le plan doctrinal. C'est aussi ça. C'est obéir à la parole, mais aussi en garder, en préserver l'essence. En dialoguant avec quelqu'un sur l'enseignement de l'histoire de l'Église, ce qui m'avait sauté aux yeux à un moment donné, c'est que tous les conciles de l'histoire de l'Église, jusqu'au IVe siècle, environ en 320-314, je crois, tous les conciles étaient centrés sur le fait de préserver la doctrine concernant Christ et le salut. Jusqu'au IVe siècle, c'est peu, hein, 300, on est 200 ans après la disparition des derniers apôtres. Et tous les conciles de l'Église étaient toujours de se positionner contre ceux qui voulaient apporter un autre éclairage, changer ce qui était de l'œuvre du salut, de la personne de Christ. Et puis après, on a largement abandonné cette position pour que les conciles ne parlent que comment on va préserver l'Église, sa place, son autorité, les ministères. C'est étrange, n'est-ce pas? Christ n'était plus au centre. La défense de la doctrine n'était plus le principal, c'était préserver la position de l'Église. Et ça peut être aussi, aujourd'hui, notre préoccupation. Dans notre Église apostolique, combien de temps de rassemblement des pasteurs tournent-ils autour de la personne de Christ, de la place de Christ, de l'évangélisation, de la parole et du salut? Et combien de temps est consacré à... Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment on les reconnaît? Il faudrait faire un audit, tout à fait. Merci de donner l'idée, je vais le transmettre. Pour ceux qui n'étaient pas à l'Assemblée Générale, c'est une petite pique concernant le choix qui a été fait d'avoir un audit pour ces choses-là. Mais quel est le centre de notre préoccupation? Parce que tu as gardé ma parole. Non seulement pour t'y soumettre, mais aussi pour en garder, en préserver l'essence. L'apôtre Paul a parlé à un de ses disciples qui s'appelait Timothée, et c'est une parole qui, moi, m'a été donnée au moment de mon baptême. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Tu en es responsable. Ah oui, mais Internet m'a dit que... Combien j'ai entendu ces 15-20 dernières années l'interprétation des choses qu'il faut croire à partir d'Internet. Alors on parle souvent de cette puissance des fake news pour la vie politique, pour la vie sociale, etc. Mais combien de chrétiens basent leur foi sur Internet et ce qui y est dit, et non pas sur la lecture
avec l'aide du Saint-Esprit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, de la parole que je t'ai donnée. Quelle tristesse! Quelle tristesse pour nos vies et la vie des chrétiens, mais quelle tristesse pour la vie de l'Église! Garde le bon dépôt! C'est cela que je reconnais en toi, Église de Philadelphie. Et j'espère que c'est la parole que Dieu nous adresse aussi à l'Église de Kevin. Garde, garde ma parole. La troisième qualité, c'est la loyauté. Parce que tu n'as pas renié mon nom. La loyauté, être loyal à Christ. Moi, je trouve que c'est une qualité qui se perd. Je me rappelle d'élections où un premier ministre s'est présenté contre un ami de 30 ans, sans rien lui dire. Mais nous étions des amis de 30 ans. La loyauté n'existe pas dans ce milieu. La loyauté devient rare dans notre société. Mais tu n'as pas renié mon nom. C'est une des qualités que je te reconnais. C'est que tu sais qui je suis, quelle place j'ai dans ta vie et ce que tu veux et attends de moi. Tu es quelqu'un de loyal. Au moment où Jean écrit l'Apocalypse, on est dans un temps de persécution où il est consigné sur l'île de Patmos. Et pourtant, malgré les tentatives du monde d'éteindre la parole dont il est porteur, c'est de là qu'il va écrire à la fois l'Évangile et à la fois l'Apocalypse. Tu es quelqu'un de loyal. Est-ce que Dieu peut dire cela de nous? Est-ce que Dieu peut dire cela de cette communauté? Tu n'as pas renié mon nom, tu es quelqu'un de loyal. C'est pas seulement le confesser de sa bouche, c'est refuser aussi toute autre idole, entité, un culte partagé. C'est être loyal en totalité. Pas le dimanche, mais quand je suis à mon travail, quand je suis à l'école, quand je suis avec mes amis, chrétiens, non chrétiens. Être loyal à qui est Jésus-Christ dans ma vie. Et la dernière qualité qui est posée, c'est la qualité de la persévérance. La persévérance. Parce que tu as garder la parole et la parole de la persévérance en moi. Oh, la persévérance, c'est pas quelque chose qui est à la mode. Hein. Oh non, 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 non. Persévérance, il n'est qu'à voir la conception du mariage, de l'union d'un homme, d'une femme, d'une relation. Non, non, persévérance, c'est... Ah, il y a des raisons pour se séparer. Hein. Je travaille avec des femmes tout au long de l'année. Je sais que des séparations sont parfois nécessaires. Mais il y a aussi des relations que l'on tourne rapidement parce que c'est dans l'air du temps et de notre société. Dieu reconnaît à Philadelphie une parole de persévérance, la persévérance en moi. Philadelphie était située sur une zone de faille au niveau des tremblements de terre. Cette ville a été mais détruite à plusieurs reprises. Ils ont reconstruit à chaque fois. Aujourd'hui, elle existe encore. Mais Philadelphie, c'est une ville qui a été détruite. À chaque fois, ils ont persévéré. Ils ont reconstruit. On pourrait penser qu'en voyant la faiblesse, le peu de puissance qui caractérisait l'église de Philadelphie, elle ne se trouvait pas dans les meilleures conditions pour persévérer. En fait, c'est justement l'inverse qui s'est produit. Le fait d'être peu nombreux, une minorité, ou de ne pas avoir d'influence, n'est pas un désavantage, mais un atout pour la persévérance. C'est non dans la facilité, mais dans le creuset de la difficulté que souvent s'épanouit le mieux la fleur de la persévérance. Lorsqu'il nous regarde, le Seigneur peut-il dire à l'église de Philadelphie, à l'église de Kevin, « Je viens bientôt ». Retiens ce que tu as avec toutes les qualités qui sont les tiennes dans ta vie. Demeure en moi. Et à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne. Seigneur, comment peux-tu faire une colonne dans une ville où les tremblements de terre font tomber les bâtiments au fur et à mesure. Je ferai de toi une colonne, même si tu es peu puissant, au milieu de ta famille.
Est-ce que je suis une colonne sur laquelle les autres peuvent s'appuyer?
Et je te donnerai un nom nouveau. Philadelphie ne porte plus ce nom-là aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un nom nouveau par rapport à notre nom terrestre qui parle de ce que Dieu voit de nous et dit de nous. Hein ? Ça me fait toujours sourire, c'est une image. Jusqu'où va-t-elle ? Je ne sais pas. Mais moi, quand je partirai et que j'attendrai ou je chercherai à rejoindre ma femme, j'aimerais bien qu'elle s'appelle Francine et qu'elle réponde à son prénom. C'est une image, je ne sais pas de quelle manière ça se passera, quelles seront les choses. Mais c'est une manière de dire que tout sera nouveau et que même notre identité humaine sera transcendée par l'œuvre que Dieu accomplira et continuera d'accomplir en nous. Parfois, on se donne des noms, je suis un raté, je suis nul, je ne vaux rien. C'est parfois les noms qu'on se donne. Hein. Imaginez le livre de Ruth, qui commence par Élimélec, qui part avec ses deux fils, Malon et Kilion. Malportant et souffreteux. Ouais. Comment voyaient-ils leurs enfants pour les appeler comme ça? C'était leur nom, hein? Malportant et souffreteux. Quel est le nom que nous nous donnons au plus intime de nous-mêmes? Je suis incapable. Je pourrais pas. Vous vous appelez comment? Je pourrais pas. Ah ouais. J'ai souvent souriant, ma mère m'a appelé Jean-Marc. Et un jour, je lui ai demandé pourquoi tu m'as appelé Jean-Marc. Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment est venue l'idée du prénom. Elle m'a dit, j'étais dans une institution religieuse, le curé qui partait s'appelait Jean, le nouveau qui arrivait s'appelait Marc. Je me dis, si le premier s'appelait Scolastien et le deuxième s'appelait Barnabé, je l'ai échappé belle. Et en même temps, quel est le nom que je me donne? Quelle est l'identité que je m'accorde? Voici, si tu es fidèle, si tu gardes ma parole, si tu es en moi, je ferai de toi une colonne et je te donnerai une identité nouvelle en moi. C'est la pensée de Dieu pour nous. Merci Seigneur d'accomplir cette œuvre dans nos vies. Au plus profond de notre être, que ce soit à titre individuel et personnel, que ce soit aussi au niveau de cette communauté, nous avons peu de puissance. J'ai peu de puissance, Seigneur. Si je m'appuyais sur ce que je suis, je ne pourrais rien. Mais en toi sont contenues toutes les promesses du Père pour ma vie. En toi sont toutes les espérances. Et elles sont grandes. Alors Seigneur, ce matin, donne-moi de te donner tous les oui qui rendront possible ton œuvre de s'accomplir en moi, en nous et dans ton Église. Parce que ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce monde a besoin de ces hommes et de ces femmes qui portent un nom nouveau et qui sont des colonnes dans cet univers. Amen.